Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Studio Tamani, il est 18h à Bamako, le journal avec Seydou Fama, bonsoir. Le Suédois Johan Gustafsson, enlevé par Al-Qaïda en novembre 2011 à Tombouctou, est arrivé en Suède en bonne santé. Quant au Sud-Africain enlevé au même moment, son sort reste inconnu. Cette libération s'inscrit dans un contexte politique où des voix s'élèvent pour négocier avec les djihadistes, soulignent certains analystes. Ils n'excluent pas que cette libération puisse correspondre à une volonté d'ouverture du côté des salafistes. Le sous-groupement tactique désert blindé de la force Barkhane a mené du 13 au 17 juin dernier une vaste opération de contrôle de zone dans la région d'Essouk à 60 km au nord de Kidal. Elle vise à chasser les groupes djihadistes et renforcer la présence des soldats français dans la région. Un accident de la circulation qui a provoqué la mort d'un garçon de 9 ans le jour de la fête du Ramadan a déclenché la colère des habitants de Djalakorodji, un quartier périphérique de Bamako. Les scènes de violence qui ont suivi ont fait une dizaine de blessés. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le Suédois Johan Gustafsson, enlevé par Al-Qaïda en novembre 2011 à Tombouctou, est arrivé en Suède en bonne santé. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement suédois. Toutefois, le sort d'un autre otage, un Sud-Africain, enlevé au même moment, reste inconnu, Idrissa Sako.
Johan Gustafsson a pu rejoindre la Suède et retrouver sa famille, a déclaré aux journalistes la chef de la diplomatie suédoise. Selon Margot Wallström, il est en bonne santé, il tient bon compte tenu des circonstances. La ministre a refusé de donner des précisions sur les conditions de la libération, indiquant seulement qu'elle avait eu lieu il y a quelques jours et qu'elle était le résultat de plusieurs années d'efforts réalisés par la police, les hommes politiques, les diplomates et les autorités suédoises et internationales. La ministre a aussi refusé de dévoiler si une rançon avait été payée ou non. Elle a indiqué que Johan Gustafsson a été libéré dans le désert malien et c'est le groupe Al-Faroutan, affilié à ACMI et à Al-Qaïda, qui l'a enlevé. Le 25 novembre 2011, Johan Gustafsson avait été enlevé à Tombouctou en même temps que le Sud-Africain Stephen McGowan et un Irlandais Chuck Rich. Un quatrième homme, un Allemand, avait été tué en tentant de résister à ses ravisseurs. Gustafsson s'est trouvé au Mali alors qu'il faisait un voyage en moto entre la Suède et l'Afrique du Sud.
Certains analystes estiment que cette libération s'inscrit dans un contexte politique où des voix s'élèvent pour négocier avec les djihadistes. André Bourgeot, analyste, chercheur au CNRS et spécialiste du Mali, pense que la libération de l'otage suédois peut correspondent à une volonté d'ouverture du côté des salafistes qui subissent en ce moment des pressions des puissances occidentales. André Bourgeot est joint par Idrissa Sako.
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a eu tendance à oublier qu'il y avait encore des otages, qui étaient donc dans des situations d'otages. Donc, c'est une nouvelle importante qui s'inscrit dans un contexte politique quand même où il y a eu plusieurs propositions d'ouverture pour négocier avec Iyad Agrali, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des pressions internationales qui s'exercent et qui font en sorte que d'agir sur ces situations. En tout état de cause, la libération de l'otage suédois peut aussi correspondent à une volonté d'ouverture du côté des salafistes djihadistes vis-à-vis des puissances occidentales. Pour créer un dialogue, je ne le crois pas, je ne pense pas que ce soit dans leurs objectifs, mais en tout état de cause, c'est quand même aussi une ouverture et c'est quand même une bonne nouvelle, mais il faut quand même souligner que c'est 5 ans dans des situations d'otages, c'est une durée quand même extrêmement importante, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été confronté à cette situation.
Après cette libération, 4 otages étrangers enlevés au Mali, dont 3 femmes, sont toujours retenues. Il s'agit notamment de Béatrice Stockley, la sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti, une religieuse colombienne, la Française Sophie Petronin et un Malien, Amadou Djom, agent payeur de l'INPS dans la région de Mopti. Les points avec Fatma Tougoula.
Un humanitaire sud-africain avait été choisi par les familles pour négocier la libération de Gustafsson et Stephen McGowan, l'autre otage enlevé le 25 novembre 2011 à Tombouctou. À ce stade, des autorités de la Suède et de l'Afrique du Sud pensent que Stephen McGowan est toujours retenu. Plusieurs autres occidentaux ont été enlevés au Mali ces dernières années et restent en captivité. En janvier 2016, la missionnaire suisse Béatrice Stockley avait été kidnappée à Tombouctou par ACMI. Une vidéo la montrant vivante avait été diffusée un an plus tard. Gloria Cecilia Narvaez Argoti, une religieuse colombienne, a été enlevée en février dans le sud du Mali par des hommes armés présents présumés djihadistes. Sa situation est toujours inconnue malgré de nombreuses arrestations. Enfin, la Française Sophie Petronin, présidente d'une ONG, a été enlevée à Gao dans le nord du Mali fin 2016. Depuis, aucun groupe n'a revendiqué son enlèvement. Le 2 septembre 2016, dans la localité de Boni, un élu local a été enlevé lors d'une attaque. En avril dernier, Amadou Ndjim, agent payeur de l'INPS dans la région de Mopti, a également été enlevé à Walado, près de Yuwaru.
Réagissez à ces informations sur la page Facebook de Studio Tamani et sur son compte Twitter. Vos réactions sont également attendues sur le répondeur au 75 84 11 11 ou au 75 84 12 12. Une unité de la force Barkhane appelée le sous-groupement tactique désert blindé a mené du 13 au 17 juin dernier une vaste opération de contrôle des zones à Essouk, à 60 km au nord de Kidal. Cette opération baptisée Chevauchée s'inscrivait dans la continuité des opérations de ratissage et de lutte contre les groupes alliés terroristes. Elle vise à chasser les groupes djihadistes et renforcer la présence des soldats français dans la région. Intala Akbilal.
Une centaine de soldats français et une trentaine de véhicules ont effectué une mission de reconnaissance des voies d'accès des nombreuses zones au nord de Kidal. Selon un communiqué du ministère de la Défense française publié sur Internet, cette opération a permis de prendre contact avec les autorités locales de la zone et aussi mener des opérations de fouilles près du village de Souk et ses environs. Selon le ministère, les soldats français ont aussi accompli plusieurs actions au profit des populations. De nombreuses personnes des campements visités ont, selon lui, bénéficié d'une aide médicale. Régulièrement pris pour cible par les groupes djihadistes, les soldats français de la force Barkhane tentent de pacifier la région du Sahel depuis l'été 2014. Cependant, après plus de 2 ans d'existence, certains observateurs maliens estiment que l'opération Barkhane n'a pas été efficace dans la lutte contre le terrorisme. Selon T, les militaires français doivent coopérer davantage avec les forces armées maliennes.
Le directeur général de la police nationale, Moussa Aga Infahi, en visite à Menaka le 21 juin dernier, a annoncé l'installation d'un commissariat de police dans la localité au mois de juillet. Selon le gouverneur de la région, ces éléments de la police vont contribuer à assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la ville et ses environs. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Menaka, au micro d'Intala Akbilal.
A été créé en 2011. Donc, il va être opérationnel maintenant. L'objectif et l'intérêt, c'est que cela participe au retour progressif du service de l'État. On peut également dire que c'est un peu le chaînon manquant de la chaîne sécuritaire. Nous avons déjà la garde nationale, la gendarmerie, la protection civile sur place. Et la mise en place du commissariat dès le mois prochain permettra également la sécurisation des personnes et des biens dans les centres urbains et autour des centres urbains, en tout cas notamment à Menaka ici. Ce commissariat sera installé concomitamment avec la police des Nations Unies, constituée d'un contingent togolais. Et ce sont des effectifs assez importants qui peuvent assurer des patrouilles de jour comme de nuit pour renforcer les dispositifs qui existent déjà, notamment avec les FAMA, les groupes armés et même l'AMINUSMA.
Un accident de la circulation a déclenché la colère des habitants de Dialakorodji, un quartier périphérique de Bamako. L'accident qui s'est déroulé le jour de la fête du Ramadan a fait un mort, un garçon de 9 ans. Les populations ont alors érigé des barricades pour bloquer le passage de tous les véhicules de transport en commun. Des apprentis chauffeurs ont à leur tour dégagé le cordon de sécurité le lendemain. Les scènes qui ont suivi ont fait une dizaine de blessés, dont 3 graves. Oumar Guindo, maire de la commune rurale de Dialakorodji, il revient sur les faits et les joints par Aliou Sidibé.
Les apprentis chauffeurs qui avaient la charge de diriger, alors se faisaient un peu la concurrence, une espèce de safari autour de la route. Un jeune homme de 9 ans sur le bord de la route qui est tombé du coup mort. Ainsi, la population a réagi, donc c'est comme ça qu'ils ont brûlé le véhicule. Ils ont mis des barricades, donc obstruant ainsi toute forme de passage. Et malheureusement, le lendemain, certains chauffeurs de Sotrama sont partis prendre des loubars en vie pour venir faire blocage et chercher à enlever le cordon de séparation là que les populations ont mis. Et c'est comme ça que l'escalade a réagi. On a fait rapidement une sortie de crise où les syndicats ont reconnu que ce qui a été fait est malsain. Durant toute la matinée d'hier, on était parti d'échanges à gauche, à droite pour faire des apaisements. On est arrivé à sortir de la crise. Il y a eu 3 quand même grièvement blessés, dont ils ont pris la charge. Et puis l'inhumation aussi, ils ont pris presque en charge.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
nouvelles des régions. À présent, le prix du charbon a augmenté à Koutchala de 1500 francs. Il est acheté aujourd'hui à 3000 francs CFA. Selon les commerçants, cette situation s'explique par l'abandon des activités de production du charbon en cette période d'hivernage. Les trafics et les vols d'âne sont de plus en plus fréquents dans les secteurs de Yoroso, à Kourou et à Mahou. Les populations se plaignent de la disparition de plusieurs de leurs ânes. Elles retrouvent les carcasses de leurs animaux dans la brousse. Selon les sources locales, la peau de ces animaux est vendue au Burkina Faso. Un mort et 6 blessés, c'est le bilan des accidents de la circulation survenus le jour de la fête du Ramadan à Koulikoro. L'information a été communiquée ce matin par la direction régionale de la protection civile lors d'une session de travail. Le grand dialogue, c'est en quelques petites minutes en compagnie de Mamadou Touré, qui est d'ailleurs déjà présent dans ce studio. Bonsoir Mamadou.
Bonsoir Seydou Fomba.
De quoi sera-t-il question ce soir?
Nous allons parler d'inondations, absence ou insuffisance de caniveaux, occupation des services et des lits des cours d'eau, utilisation des systèmes de drainage, des eaux comme lieu de dépôt des ordures, entre autres, sont les principales causes des inondations à travers le pays. Seydou Fomba, chaque année, ce phénomène occasionne plusieurs victimes et des dégâts énormes au Mali. La semaine dernière, plusieurs localités, notamment Niafenke, Adjoura dans le cercle de Gourmararous et Gossi, ont été touchées. Alors, comment éviter les inondations? Quelles sont les dispositions prises par les autorités? Nos invités, Bakary Ndaw, directeur régional de la protection civile de Bamako, Demba Konta, deuxième adjoint au maire de Yuarou, Omar Konaté, directeur du service urbain de voirie et d'assainissement, et Moussa Touré de Mali Météo.
Bon débat, c'est donc tout pour ce journal qui était une présentation de Seydou Fomba avec une mise en onde de Philippe Dambélé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le magazine.